Sud Radio 10h midi, débat.
Et vous nous appelez, nous parlons vrai, vous le savez, sur Sud Radio. Le standard, vous êtes ouvert, évidemment, toute la journée, 0826-300-300, ainsi que les réseaux sociaux. Mais on va tout d'abord saluer nos débatteurs de ce vendredi. Bonjour Jean-Luc Benamias.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, membre du Conseil économique, social et environnemental, ne l'oublions pas. Éric Vérac, bonjour Éric.
Bonjour.
Entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. On est également avec Najwa El Haïté, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour à vous, docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès, auteur de Laïcité et République aux éditions de L'Harmattan, et Alexandre Malafaille, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Oh, moi ça va bien, président du think tank Sinopia, ça va bien parce que je sais qu'on va avoir des débats enflammés sur les sujets du jour aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous avez tous quelque chose à dire concernant le Black Friday, et on l'a intitulé Bruno Le Maire 1, Amazon 0. Voilà, est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que c'est effectivement une victoire du ministre de l'économie? On parlera aussi du vaccin qui est en cours de, on va dire, de préparation, il arrive sur le territoire français et en Europe, mais quelle politique vaccinale adopte? Faut-il forcer les Français à se faire vacciner contre la Covid-19? On attend vos commentaires aussi au 0826-300-300. On parlera des coupures d'électricité, semble-t-il, à prévoir cet hiver. Alors pas pour Noël, mais pour la Chandeleur plutôt. Est-ce que ça vous scandalise ou pas? Et puis la loi de sécurité globale, le gouvernement a-t-il reculé? Ou est-ce que c'est Gérald Darmanin qui est forcé de faire un pas en arrière concernant notamment l'article 24? Mais on commence, vous le savez, avec vos coups de cœur et votre coup de gueule. Honneur aux dames, Najwa, vous voulez parler d'un coup de cœur pour l'appel des artistes français en faveur de l'Arménie.
Exactement. Et bon, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Donc, en effet, qui concerne l'appel des artistes français en faveur de l'Arménie et de l'Artsakh, je ne sais pas si je prononce bien, publié dans le Figaro de... Pardon ?
L'Artsakh.
Oui, l'Artsakh. Donc, voilà.
Jean-Luc, ça n'a rien à voir.
Je ne sais pas notre prononciation.
Ouais, voilà, donc c'était important de bien prononcer aussi les mots. Oui. Donc, publié dans le Figaro de ce jour. Donc, leur texte rappelle avec force que plus d'un siècle après la perpétration du génocide des Arméniens qui a eu lieu en 1915, le même peuple est de nouveau victime de deux régimes autoritaires, donc la Turquie et l'Azerbaïdjan, au détriment donc, et en violation surtout des conventions internationales. Et c'est un peuple de l'Artsakh debout qui a souhaité préserver son histoire, préserver sa culture, hélas dans une totale indifférence du monde. Et c'est là où, voilà, là c'est mon coup de gueule. Et quel silence assourdissant de l'Europe. Le projet d'expansion turque prend forme et l'Europe regarde sans broncher. Voilà encore un bien triste exemple de renonciation de l'Europe. Donc vous voyez, c'est à la fois un coup de cœur par rapport à cet appel et cette mobilisation des artistes et un coup de gueule par rapport au silence assourdissant du monde et particulièrement de l'Europe.
Ouais. Jean-Luc Benamias, on enchaîne avec vous parce que vous avez un coup de cœur pour le Sénat sur ce sujet dramatique. Hein, en ce moment, on découvre, je pense que les Français découvrent l'histoire de ce territoire. Hein.
Le Sénat s'apprête à demander à l'État français de reconnaître le Haut-Karabakh comme État constitué. Ouais. Il est temps. Je rappelle historiquement que c'était le Sénat qui s'était battu pendant très longtemps contre la reconnaissance du génocide arménien. Ça, c'est il y a à peu près une vingtaine d'années. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est une bonne. À ce niveau-là, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas à l'Union européenne qu'il faut mettre en cause dans ce qui s'est passé au Karabakh et en Arménie par rapport à l'Azerbaïdjan. C'est le groupe de Minsk. Le groupe de Minsk réunissait, je vous le rappelle, la Russie, la France et les États-Unis. C'était eux qui sont en charge de faire qu'il y ait de la pacification sur ces territoires. Le silence a été assourdissant. Le silence de la France a été assourdissant. Et on a donc laissé aux Russes le soin de régler seuls cette affaire. Enfin, ce combat, ce qui a quand même fait plusieurs milliers de morts, il faut le rappeler.
Oui, il y a eu des bombardements. Voilà, enfin, c'est une guerre. C'est une guerre.
Si la France avait pris des... Comment dire? fait part
des positions
de ses positions un peu plus rapidement, ça aurait peut-être permis à l'Union européenne de d'aller un peu plus vite. Comme c'était pas le cas, l'Union européenne, elle est restée sur son compte à soi. Et puis, tout le monde sait aussi que, évidemment, un certain nombre de pays de l'Union européenne ont des intérêts communs avec la Turquie.
Ouais, ouais, ouais. C'est un drame humanitaire, hein. C'est plus qu'un drame humanitaire, mais effectivement, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a toujours pas de politique étrangère commune à l'Europe aussi?
Il n'y en a pas. Mais ça, on le sait. C'est malheureusement totalement impossible. Une partie de l'Union européenne fait partie de l'OTAN, dont la France. Mais je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, par rapport à ce dont on discute, c'est-à-dire le Karabakh, le Haut-Karabakh et l'Arménie, c'est la situation d'une complexité absolue.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que Alexandre, on ne peut pas non plus toujours accabler l'Union européenne en tant que telle. On peut en revanche accabler les États qui composent l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'est que la somme de ce que nous décidons ou pas de faire en commun. Le service européen des affaires étrangères est à la main de qui veut vraiment prendre le pouvoir, et en l'occurrence, ou conserver le pouvoir. Ceux qui conservent le pouvoir, ce sont les États, comme le disait Jean-Luc, qui ont leurs intérêts, qui ont leurs raisons d'agir ou de ne pas agir. Et en tout cas, tout ça confirme que, de toute façon, dans le cadre de ce qu'on appelle le multilatéralisme, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à l'échelle internationale. L'ONU non plus est quand même très, très silencieuse sur ce sujet-là. Personne ne fait rien. On n'a pas les moyens d'intervenir. Donc, de toute façon, après, on peut faire de l'agitation. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Ukraine. Rappelez-vous, extraordinaire l'Ukraine, quand même. Alors, bien sûr, on a pris des sanctions contre la Russie. Et alors, la Russie s'est réorganisée, s'est tournée ailleurs. Et au bout du compte, tout le monde perd. Donc, là-dessus, on est totalement impuissant. Et ça pose un vrai sujet, parce qu'on est face à des pays qui ont bien compris qu'on était impuissant. Comme on est impuissant en interne pour effectivement faire face souvent à notre fameux ennemi intérieur, où on constate les dégâts plus qu'on les maîtrise et qu'on anticipe. Et sur la recolonisation, si je puis dire, ottomane, qui est en marche, on n'a pas les moyens d'agir ou de réagir.
Oui, mais on peut quand même critiquer cette Europe. Hein. Tout dépend aussi.
Oui, mais non, c'est pas l'Europe. Voilà, j'insiste vraiment.
Moi, je suis plus
c'est dommage.
Cette...
Non, mais c'est.
Je voudrais juste position-là avec d'autres.
Je comprends. Je comprends, mais en fait, malheureusement, en faisant ça, je trouve que tous ceux qui font ça contribuent en fait à jeter l'anathème sur l'Union européenne, qui n'est, je le rappelle, que la somme de ce que les pays veulent faire ou pas faire. Voilà, l'UE n'a pas de prérogative seule. Il faut bien comprendre qu'elle est vraiment techniquement entre les mains des États. Donc, si aujourd'hui le service, la patronne de la diplomatie européenne n'a pas un blanc-seing des États pour prendre une position claire sur ce sujet, elle peut pas le faire. Il faut bien comprendre ça. Pour l'instant, il n'y a pas de transfert de souveraineté. Il n'y a pas de transfert de prérogatives sur ces questions-là. Donc, vous pouvez blâmer l'Europe, très bien. Mais en fait, en blâmant l'Europe, vous démolissez l'image de l'Europe aux concitoyens. Et au bout du compte, un jour, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait 27 pays qui en soient sortis. On sera encore plus affaiblis.
Est-ce qu'on peut blâmer les États? On va dire les États, les puissants États.
Oui.
La France et l'Allemagne, par exemple, dans ce dossier-là, dans ce que disait Najwa, il y a une prise de position où Jean-Luc Benhamia, c'est une prise de position de la France du bout des lèvres, quand même.
Ah, mais ils ont mis un temps fou. Je comprends la prudence. Hein. Je vais vous donner une des raisons de cette prudence, qui est une raison historique. Hein. Nous sommes un pays qui sommes le troisième ou quatrième pays vendeur d'armes. Et donc, dans ce cadre-là, la diplomatie était extrêmement délicate. Je vous rappelle juste, alors, la France n'a pas vendu d'armes à l'Azerbaïdjan, mais la Turquie, évidemment, Israël, on le sait maintenant, et l'Angleterre aussi. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une structure internationale où la vente d'armes passe au-dessus, passe avant la diplomatie, ça devient très, très compliqué.
Oui, ça devient la...
Si je peux ajouter Eric Vérac, une voix, Eric, parce que tout le monde critique l'Union européenne, mais au jeu de qui critique qui ou des pays d'Europe, je voudrais quand même souligner le rôle très ambigu des États-Unis dans cette affaire, qui couvre leur allié turc. Et moi, j'ai retenu quand même que la base du différend, elle venait de l'envoi d'anciens de Daesh au Karabakh, en Azerbaïdjan, pour déstabiliser la frontière sud de la Russie. Je note que la Russie vient de s'enquiller quand même l'affaire biélorusse et qu'elle prévoit une autre manœuvre de déstabilisation en Moldavie. Donc on peut aussi s'interroger sur le fait qu'on voit se multiplier des foyers de conflit ou d'instabilité aux marches de la Russie. Et on peut penser que l'arrivée éventuelle de Biden à la Maison-Blanche ne fera que nourrir la déstabilisation de la Russie à ses frontières, qui, moi, je pense, est tout sauf innocente et tout sauf accidentelle.
Ouais. En sachant que la Biden à la Maison Blanche, c'est dans une éternité, je dirais, c'est pas encore tout à fait acquis en tous les
c'est
cas sur. C'est voilà, dans ce que je veux dire. On va s'arrêter un court instant, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, on va faire l'info de 11h et les coups de cœur et les coups de gueule. Ça, on continue dans un instant avec Éric Vérag qui a un coup de cœur pour un magasin érotique. J'en en dis pas plus, mais on a hâte d'être après les infos de 11h pour savoir de quoi il s'agit. Vous nous appelez 0826 300 300, c'est le débat. Ce matin du 10h midi sur Sud Radio. Parlons vrai, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et vous réagissez sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on va continuer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité d'aujourd'hui avec nos débatteurs du jour, Najwa El Haïté, Alexandre Malafaï, Éric Vérag et Jean-Luc Benamias. On continue avec les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité et ensuite notre premier débat sur le Black Friday qui est repoussé d'une semaine. Est-ce une victoire écrasante de la part de Bruno Le Maire ou un écran de fumée? Vous n'hésitez pas à nous appeler 0826, vous nous donnez votre avis, 0826 300 300 également sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et vous continuez de nous appeler ou de réagir les réseaux sociaux sur Sud Radio. Ce matin, on est en compagnie de Najwa El Haïté, Alexandre Malafaï, Éric Vérag et Jean-Luc Benamias. Alors juste avant l'info de 11h, j'annonçais qu'Éric Vérag, vous aviez un coup de cœur pour un magasin érotique. Alors je me suis arrêtée là parce que on a hâte de savoir la suite aujourd'hui. Que se passe-t-il en fait, avec ce magasin?
C'est moins pour le magasin érotique. Qui se trouve près d'Avignon, au Pontet, donc bien connu des buveurs de Châteauneuf-du-Pape.
Consommé avec modération, je suis obligé de le rajouter, voilà, je vous le dis.
Et donc ce magasin, c'est pas le magasin qui m'inspire un coup de cœur, c'est le geste de son propriétaire, puisque son propriétaire a décidé d'offrir 180 packs de réconfort au personnel des services de réanimation de l'hôpital d'Avignon. Dans le moment difficile de l'épidémie de Covid. Alors, je trouve que.
Quoi, un pack de réconfort?
Alors, il doit y avoir des tas de produits, si tu veux, je t'enverrai la liste. des produits destinés à favoriser le plaisir et la relaxation des personnels. Et je trouve que c'est un geste d'abord sympathique et qui met un peu de légèreté dans l'actualité. Mais au-delà de cette légèreté, je trouve que il y a un vrai sujet en France, c'est qu'on vit désormais sous une espèce de pression quotidienne depuis plusieurs mois qui nous incite à avoir peur, à vivre dans l'angoisse, à nous terrer chez nous parce que le monde est dangereux. Et je trouve que c'est bien que finalement on se dise, on arrête avec la peur et maintenant on se met à retrouver la voie du bien-être et du bonheur. Faut faire avec le virus, c'est désagréable, mais arrêtons de suspendre toute notre existence à cette peur permanente et donnons-nous finalement la possibilité aussi d'être heureux et de voir la vie du bon côté dans cette période probablement difficile, mais je crois que l'histoire de l'humanité en a montré bien d'autres bien plus dures.
On va peut-être retrouver Éric Vérag en séminaire de méditation de bien-être.
De bien-être, et y compris avec un pack de réconfort, je n'ai aucun problème là-dessus. Moi, je trouve très bien. Je trouve très bien. D'abord, je vais redire, je fais une petite note philosophique. Mon ami Michel Maffezoli dit souvent que le drame, la tragédie de notre époque, c'est qu'elle a oublié d'apprendre à mourir. Et un certain nombre de philosophes ont toujours fait un lien entre le plaisir, l'amour et la mort. Ce sont des apprentissages qu'il faut faire et c'est le sens même de l'humanité. Rappelons-nous que les Gaulois, à la base, croyaient à l'immortalité, de l'âme en tout cas, et je crois que nous avons besoin de retrouver le sens de la vie qui n'est pas d'avoir peur de mourir, mais qui est d'assumer le risque de mourir tôt ou tard et de le vivre sereinement et d'apprendre à le vivre sereinement.
Voilà, donc ce pack de réconfort de ce magasin de produits érotiques offert aux soignants du service de réanimation de l'hôpital d'Avignon. Alexandre, vous cassez l'ambiance là, forcément, avec votre coup de gueule. Vous parlez de la France de l'étatistan. C'est un nouveau pays, ça.
C'est la France est devenue une espèce d'étatistan. Les Allemands, vous savez, il y a quelques jours, ont titré sur l'absurdistan qui était la France, mais l'absurdistan, ce serait trop facile. Ça va bien plus profondément parce qu'on a des problèmes majeurs aujourd'hui qui sont liés à cette classe politique formée au même au même moule et qui ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Cette déconnexion du pouvoir par le sommet, aujourd'hui on gère la France quand même dans le huis clos du Conseil de défense. C'est un vrai sujet ça de gouvernance, il n'y a plus aucun contrôle démocratique, il n'y a plus aucun contrôle du tout. On n'a pas accès aux informations qui sont voilà qui font l'objet des discussions et des débats. C'est quand même très préoccupant et l'État se mêle de tout. Enfin, il faut imaginer qu'on est dans un pays où on vient de prendre un décret pour un décret, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rédigé en mesurant les enjeux et les problèmes, voilà, pour nous autoriser à aller acheter nos sapins de Noël. C'est-à-dire, il faut imaginer quand même qu'on paye des gens pour ça, quoi. Il y a quelque chose
ça,
qui
ça fait rire Jean-Louis. Alors, il faut regarder l'image aussi. Hein.
C'est forcément la conséquence de mauvaises décisions. Et après, on est dans un espèce de monstre et d'imbroglio. Mais tout ça va très loin. Tout ça, en fait, va très loin sur le plan de ce que ça veut dire en matière de contrôle de nos libertés. Et on est en train de dériver extrêmement gravement. Et j'espère que vos auditeurs s'en rendent compte, même si, en effet, il faut faire attention. En effet, il y a une crise sanitaire. Mais la dérive qui est en train d'être prise, hein, on en parlera tout à l'heure, il y a peut-être aussi demain pour les journalistes une obligation de demander une autorisation pour couvrir une manifestation. Petit à petit, on glisse, la société se numérise, se digitalise, et on va se réveiller un beau jour, on sera dans le monde d'Orwell. Voilà. Et ce sera trop tard.
On y est déjà, Alexandre.
On y est presque déjà.
Ouais, bien suivi.
Mais en tout, oui, mais ça va encore plus loin. Ça veut dire qu'on va rester tous chez soi, on va travailler à distance, on ne sortira plus, tout sera contrôlé à un niveau qui est potentiellement, on en est qu'au début. Voilà. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. Donc moi, j'espère que les deux prochaines années, prochaine année et demie, on va approcher une échéance présidentielle qui potentiellement permettra d'avoir quelques débats sur ces questions-là, qu'on pourra revenir sur les enjeux essentiels que sont notre avenir et nos libertés, parce qu'aujourd'hui, tout ça est sauvagement piétiné.
Qui veut réagir à ça sur
le règne de...
Je veux bien parce que c'est
Jean-Luc et Eric après.
Et moi aussi. Oui. Tout le monde.
J'ai de la chance. Je pense qu'on a de la chance. On est classe moyenne supérieure en tous les cas. C'est mon cas. Bon, ça va. On arrive à. Mais je pense à tout ce qui est ordonné. Alors l'histoire du sapin est énorme parce que ça ressemble à beaucoup d'autres histoires pendant cette histoire de Covid, mais quand même, il y a rien de plus simple que de vendre un sapin dehors, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine d'avoir un décret. Je veux dire, quand vous allez dans les magasins, c'est sur le trottoir.
Mais faut qu'on comprenne pourquoi. Enfin, j'ai pas compris, Jean-Luc, pourquoi il fallait un décret. Excusez-moi, mais j'ai pas trouvé la réponse.
C'est interdit de vendre. Les fleuristes sont fermés. La plupart des fleuristes sont fermés. Donc,
on peut faire du click and collect chez son fleuriste en ce moment. Enfin, en tous les cas, à Toulouse où je suis.
C'est un produit essentiel. Il ne rentre pas dans la liste des produits essentiels.
Oui, mais ce que je veux dire, moi, mon fleuriste, je l'appelle, je lui dis, si j'ai besoin de quelque chose, je lui dis, voilà, et je passe le chercher. Donc, il continue à fonctionner.
Oui, par rapport à la procédure, en effet,
click and collect. Donc, je ne comprends pas l'histoire du sapin, qu'il a fallu un décret, qu'effectivement, des hauts fonctionnaires ont dû se pencher sur la question. Voilà.
Personne ne comprend.
Voilà.
Mais donc par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, vous pouvez acheter votre sapin, mais vous n'avez pas le droit d'acheter les boules. Parce que pour l'instant, c'est
la
interdit.
Décoration.
Il faut quand même le savoir, c'est un petit détail. Les boules de Noël, vous ne pouvez pas les acheter. Les guirlandes, c'est fini.
Si, en click and collect.
Ah, et si, oui, c'est pratique,
Alexandre, ces guirlandes, click and collect, vous avez besoin de vos boules, vous faites du click and collect. Enfin, du click et vous allez chercher, puisqu'on va essayer de parler français.
Et d'ailleurs, il faut saluer, j'en profite pour saluer vraiment l'adaptation d'un certain nombre de commerçants. C'est pas facile pour eux et ils se sont toujours adaptés, que ce soit dans le respect des mesures sanitaires, que ce soit là aujourd'hui, ils sont fermés et certains jouent leur survie. Ils s'adaptent encore, c'est-à-dire voilà, il y a cette procédure de click and collect. Donc c'est une manière pour moi de les saluer parce que vraiment c'est pas facile et ils font à chaque fois le nécessaire pour s'adapter à cette situation très compliquée pour eux.
Vous avez raison de vous saluer cette adaptation. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Aux petits commerçants et aux indépendants qui vont, si ça continue, et si on n'ouvre pas rapidement les commerces, les petits commerces, ils vont crever les uns après les autres.
Mais c'est pour ça que si vous voulez bien...
Alexandre, après. Très rapide. Enfin, je veux dire, là encore, on est dans l'absurdie la plus invraisemblable. On a décidé de confiner pour qu'il n'y ait pas d'interaction sociale le moins possible. Et on a finalement quand même autorisé les gens à venir travailler dans leurs magasins et aux Français d'aller chercher leurs commandes devant les magasins, de façon à ce qu'il y ait de nouveau des interactions sociales. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut, à un moment donné. Ou alors, il valait mieux laisser les magasins ouverts, limiter les flux, appeler les Français à la responsabilité. On est vraiment dans le débile le plus profond, quoi.
Alors, justement, ça nous amène directement, si vous le voulez bien, à notre premier sujet avec ce fameux Black Friday. Alors, c'est dans une semaine tout pile hein, qu'on devait normalement profiter et bénéficier de cette journée de super, hyper, méga promotion. C'est un rendez-vous désormais traditionnel de la consommation à travers la planète. Et en France, cette mode américaine s'est imposée puisque plus de 6 milliards d'euros ont été dépensés l'année dernière. Et donc, tralala, hier soir, on a appris par la voix du directeur général d'Amazon France, qu'il acceptait, lui, de décaler, s'il le fallait, le Black Friday d'une semaine. Donc, ça serait aux environs du 4 décembre, si je ne me trompe pas sur le calendrier. Il y a une réunion de calage qui doit permettre de trancher le sujet de cette hypothèse aujourd'hui directement à Bercy. Du bout des lèvres, ils ont fini par accepter, ce sont les patrons de la grande distribution, Carrefour et Leclerc en tête. Mais est-ce que vous trouvez-vous, chers débatteurs, que c'est une victoire pleine et entière de la part du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ou est-ce que c'est, on va dire, le moindre mal pour laisser le temps aux petits commerçants de se mettre au diapason, d'ouvrir leur boutique et de faire un Black Friday comme il se doit, ou en tous les cas d'essayer de sauver ce qui peut l'être en cette période d'achat de Noël. Qui veut commencer sur ce décalage du Black Friday ? Najwa.
Tout d'abord, moi je pense que c'est ce report du Black Friday est une victoire politique de Bruno Le Maire. Donc on fait une fixette à chaque fois sur Amazon en disant que le rapport de force est entre le gouvernement et Amazon. Or, ce rapport de force, il était aussi avec le secteur de la grande distribution, mais également avec d'autres vendeurs d'autres plateformes numériques. Et là, je pense notamment à Cdiscount, parce qu'il n'y a pas que Amazon. Deuxièmement, je vais vous dire, le Black Friday, moi, je pense que c'est aussi un écran de fumée, parce que la priorité des petits commerçants, c'est surtout de savoir quand ils vont ouvrir. Est-ce que c'est le 27? Est-ce que c'est le 28? Est-ce que c'est le 1er décembre? Donc, je le disais là, il y a même pas un instant, certains, même j'allais dire la plupart, jouent leur survie, malgré les aides de l'État qui arrivent souvent avec retard. Donc, voilà, le Black Friday, j'allais dire, c'est un épiphénomène par rapport à leurs attentes, par rapport aussi aux attentes des élus, des organisations professionnelles. La priorité, c'est de savoir quand, enfin, ces petits commerces vont ouvrir.
Ouais. A priori, on s'achemine vers la fin de semaine prochaine pour, une réouverture. Enfin, j'aime pas le mot parce que on peut dire les deux, paraît-il, hein, finalement. C'est une ouverture des petits commerces dits non essentiels. Jean-Luc Benamias.
Moi, une vraie victoire pour Bruno Le Maire. Je mets ça entre guillemets, vraie victoire, parce que ça n'a pas beaucoup de. Enfin, c'est pas le bon terme. Ce serait d'avoir obtenu ce qu'il pensait utile, d'ouvrir les magasins. Les petits commerçants, enfin tous les commerces, à partir du 27, du vendredi 27. C'est-à-dire avant ce week-end, puisque ce week-end de plus par rapport au commerce et par rapport aux courses, chacun sait que dans le mois de décembre, c'est extrêmement utile pour le chiffre d'affaires des commerçants. Et ça fait du rattrapage. Si c'est pour dire, et si la victoire c'est « on rouvre le 4 décembre », c'est-à-dire, si je me rappelle bien, mardi, il y a un week-end de perdu. Voilà, moi je pense derrière tout ça, hein, comme tout le monde, je pense au fait que il y a la crise sanitaire, mais si après on tombe dans une crise psychologique générale de dépression de l'ensemble d'un certain nombre de Françaises et de Français qui sont des indépendants, ça n'ira pas beaucoup mieux en France pour autant. Hein.
Un Black Friday qui est mondial et en France on serait décalé d'une semaine. Est-ce qu'en fait c'est illusoire comme le dit par exemple François Asselin, c'est Alexandre Malafaï et Éric Vérague. Ouais.
J'y vais, je te laisse la parole après, Alexandre. Je voudrais rebondir quand même sur votre formule, Christine, qui est la victoire de Le Maire sur Amazon. Enfin, il faut d'abord dire que si Bruno Le Maire remporte des victoires aujourd'hui, c'est d'abord sur les petits commerçants. Il y a 200 000 petits commerces fermés aujourd'hui, sans horizon de réouverture claire. Et c'est ces 200 000 commerçants qu'il est en train de terrasser à lui tout seul. C'est sa grande victoire. Alors face à Amazon, il faut arrêter de plaisanter. Ça fait combien d'années que Bruno Le Maire nous annonce une taxe sur les GAFAM, notamment pour que Amazon paye des impôts en France, puisque quand même Amazon vend et expédie ses produits en France sur des routes françaises qu'Amazon ne paye pas, avec globalement des infrastructures publiques construites par la France qu'Amazon ne finance pas. Et ça fait
sur
deux ans.
Sur ce volet-là, excusez-moi.
Ça fait quand même deux ans.
Sur ce volet-là, j'ouvre une parenthèse, on part vers une taxation des GAFA à l'échelle de l'Europe.
C'est pas de bonne veille.
Mais en tous les cas, il y a des réflexions qui sont menées, échanges qui sont menés à l'échelle de l'Europe, et donc c'était une information que je donnais.
Je vais répondre à ma joie. Il y a un très bon livre qui vient de sortir d'un journaliste de Marianne qui montre comment les GAFA sont capables de recruter des hauts fonctionnaires français
pour faire du lobbying
dans nos rangs.
J'ai été lobbyiste, donc je sais très bien donc comment ça marche.
Je n'ai aucun doute sur le fait que vous sachiez plein de choses.
Je reste humble.
Si les petits commerçants français sont torpillés par l'État et si les GAFA sont soutenus par l'État en France, c'est d'abord parce qu'il y a des traîtres, c'est-à-dire un certain nombre de membres de l'élite administrative qui ont fait le choix de servir des grandes puissances, de grandes puissances commerciales, et qui mettent leurs compétences au service de ces grandes puissances pour tuer la concurrence des petits. Et en réalité, on a un sujet très simple, c'est on instrumentalise cette crise du Covid pour torpiller des petits commerçants et pour faire le jeu des gros. Et sur le fond, la problématique du Black Friday, c'est un os à ronger pour dissimuler cette préférence de l'État pour les gros acteurs du marché, qu'ils soient américains ou pas, et contre ce que les hauts fonctionnaires appellent la concurrence émiettée des petits commerçants. Et ça ne va pas, malheureusement, au-delà de cette haine de l'élite pour les petits gens.
On vous a pas entendu, Alexandre, sur ce sujet-là, et après on va ouvrir l'autre volet de cette crise sanitaire, à savoir celui des vaccins et la politique vaccinale à adopter pour la France. Alexandre Malafaille.
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, je pense qu'au niveau de l'État, il y a un autre problème, c'est que les hauts fonctionnaires ne connaissent rien, je le disais tout à l'heure, à la réalité économique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un commerce, une boutique, une ferme, un bar. Ils n'ont jamais travaillé
dans ce monde-là. Et alors, du coup, quand ils basculent dans le privé de temps en temps, ça leur fait pas du bien,
non,
vous trouvez pas?
Ils basculent dans le privé pour diriger des grandes entreprises parapubliques ou publiques. Pardon, ils n'ont pas d'expérience opérationnelle, ils n'ont pas cette problématique de fin de mois, ils savent pas ce que c'est qu'un compte de résultat, ils ne se rendent pas compte. Et l'État, en plus, aujourd'hui, est persuadé que la redistribution crée de la richesse. Et ils pensent qu'ils ont fait un plan de relance, alors que ce ne sont que des soins palliatifs pour une économie qui est en train, effectivement, pour partie d'entre elles, de crever, quoi. Donc, il faut voir les témoignages des gens aujourd'hui, voilà. Donc, je pense que l'État se rend pas compte non plus de ce qu'il fait, de ce qu'il construit. C'est délirant, mais parce qu'il y a trop de décisions qui sont prises par le haut. Là, typiquement, la problématique à laquelle on est confronté, bien sûr, qu'elle est sur la survie du commerce, mais au-delà de ça, on a décidé de confiner alors qu'il aurait certainement pas fallu confiner. C'est une nouvelle fois une très mauvaise décision, comme on a eu aussi des mensonges avec les masques. Et donc maintenant, on est dans la mouise. C'est-à-dire qu'il va y avoir un grand lâcher de Français qui ont été contenus chez eux pendant presque 6 semaines, à 3 semaines de Noël. Les gens vont forcément, sur un temps qui est beaucoup plus court, se précipiter dans les magasins parce qu'il faut faire les courses de Noël. Et donc, évidemment, ça va de nouveau provoquer, probablement, j'espère pas, mais j'imagine, un développement du Covid. Donc, on se retrouve à nouveau avec cette problématique-là à gérer. Et je pense que, là encore, puisque l'État se mêle de tout, il aurait peut-être fallu réfléchir autrement. Peut-être qu'on aurait dû essayer de donner, par exemple, des consignes, des recommandations aux entreprises pour que les gens qui bossent puissent aller faire davantage de courses en semaine pendant la période de préparation de Noël pour éviter que tout le monde se retrouve le samedi dans les magasins, et aussi de recommander...
Mais comment vous régulez ça? Comment vous régulez?
Je termine ça. Il faut encourager. Ça peut aussi vouloir dire de dire aux personnes âgées, par exemple. Moi, je fais mes courses, comme je bosse la semaine, souvent le week-end. Ben, je suis un peu dépité de voir dans les grands magasins que je fréquente, que les personnes âgées vont faire leurs courses le week-end. On devrait leur dire, soyez gentils, faites vos courses en semaine, quoi. Ça permettrait d'éviter de les croiser aux caisses, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas bon de A à Z.
C'est un débat. Je voudrais qu'on avance parce que je vois la pendule tourner. On a encore 3 sujets à évoquer avec vous. Ça rejoint de toute façon la notion de liberté et de liberté publique aussi qui nous passionne tous. C'est celle du vaccin. L'idée de ce débat nous est venue ce matin avec Juliette Rioufol en lisant la une de la Dépêche du Midi qui titre « Vacciner de gré ou de force ». On le sait, les doses de vaccins vont commencer à arriver d'ici la fin de l'année en France et une politique vaccinale va être certainement débattue. On sait aussi que du côté du chef de l'État, d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. On chercherait a priori un monsieur ou madame vaccin pour établir une politique vaccinale autour de la Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut... on comprend bien que l'enjeu, c'est de pas se rater comme pour les masques et les tests. Mais est-ce que ça va être possible de convaincre actuellement les Français, puisqu'on sait que 6 Français sur 10 n'envisagent pas de se faire vacciner contre le coronavirus ? On est les pires... On est les pires candidats du monde entier, enfin en tous les cas dans les pays modernes, à ne pas vouloir se faire vacciner. Qui a dit, j'ai pas vu, qui a dit ils ont raison, ces Français, c'est Eric.
Parce que oui, parce que ce qui n'a pas été dit d'abord, c'est les effets secondaires sur lesquels la presse française reste étrangement silencieuse.
Mais c'est difficile d'avoir des effets secondaires sur un vaccin qui a été conçu il y a
deux mois. Ils ont tous été testés depuis plusieurs mois. Et la presse américaine, par exemple, relaye très largement les effets secondaires extrêmement désagréables de chacun de ces vaccins.
Comme quoi, par exemple, parce que je n'ai pas lu ça.
Par exemple, des fièvres qui durent plusieurs jours et qui vous...
Enfin, quand vous êtes vacciné contre le DT polio, vous avez de la fièvre aussi.
Non, mais
même pour la grippe.
Vous avez le droit de défendre les bienfaits d'un...
Non, non, ce que je veux dire, c'est que sur ce sujet-là, ce que je veux dire, Eric, il faut être très précis et pointu. Non, mais il faut être précis et pointu. Si vous dites qu'il y a des effets indésirables, il faut les donner.
Aux gamins de 25 ans, on va expliquer aux gamins de 25 ans qui risquent très peu d'être exposés aux méfaits du coronavirus.
Mais la question, c'est pas de savoir si on veut ou pas. Est-ce qu'il faut obliger les gens ou pas?
Avec de fortes fièvres. Oui, la question, c'est est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'infliger aux gens de rester 3 jours au lit avec de fortes fièvres alors que la maladie ne les concerne pas? Le seul fait que dans ce pays, on en soit à se dire comment on fait pour vacciner les gens de force est quand même une aberration. Parce que la première des libertés qui existe dans la vie, c'est de ne pas se soigner. Si j'ai pas envie de me soigner, personne n'a m'obliger à subir une vaccination. Et fait que cette liberté-là soit mise en cause et qu'aujourd'hui, il existe un mainstream qui consiste à dire « il est normal de violer les libertés », ne peut que nous pousser à faire le constat alarmant de notre capacité à la démocratie aujourd'hui, qui a été ruinée par 9 mois d'état d'urgence sanitaire.
Enfin,
il faut dire aux gens que les vaccins sont douloureux, pénibles et pleins d'effets secondaires négatifs.
Et qui sont aussi, qui sauvent des vies aussi, Eric. Hein, faut quand même pas l'oublier. Ouais, je veux bien, vies, mais ouais. Qui sauvent des vies, faut pas l'oublier. Et je pense que si on est là, c'est aussi parce qu'il y a eu des vaccins. Najwa.
Que le gouvernement prépare sa stratégie en effet vaccinale en tenant compte bien sûr de cette défiance des Français vis-à-vis des vaccins. Une fois que j'ai dit ça, dans ce contexte, il va falloir en effet communiquer, faire preuve de pédagogie, rassurer parce que il s'agit
de prendre les gens pour des imbéciles.
Non mais s'il vous plaît, les vaccins ont une utilité, excusez-moi. Donc je continue. Donc rassurer, c'est-à-dire prouver l'efficacité de ce vaccin. Deuxièmement, et la sécurité de ce vaccin. Une fois que j'ai dit cela, bien sûr que la question des libertés individuelles rentre en ligne de compte. Je vous rappelle simplement qu'aujourd'hui, les vaccins obligatoires concernent les enfants, avec 11 vaccins obligatoires. Donc, bien sûr qu'on est en droit de s'interroger sur le fait que est-ce que ce vaccin doit être forcément obligatoire. Donc, au sommet de l'État, cette question se pose. Donc, dire que ça y est, ce vaccin va être obligatoire, je pense que vraiment, c'est mettre la charrue avant les bœufs, parce que, d'une part, si ce vaccin ne fait que de protéger... Eh bien, ouais. Il va falloir uniquement cibler les personnes les plus vulnérables.
Les donc attendez,
on ne sait pas. On n'essaie pas. Donc, pour en finir là-dessus, donc en termes d'organisation, heureusement que l'État s'organise. Et après, il s'agit de rassurer et de savoir quelle est la population qui sera ciblée par rapport à ce vaccin. Et il semblerait, et je parle au conditionnel que la priorité, c'est les personnes les plus vulnérables.
Bon, on va continuer ce débat-là juste après la pause. Là, on s'arrête un court instant et continue cette politique vaccinale. Laquelle faut-il adopter vis-à-vis du coronavirus quand les vaccins vont arriver? Vous nous appelez, réagissez 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on débat de ce vaccin avec un nouveau casse-tête en vue pour le gouvernement, avec cette politique vaccinale pour le vaccin contre la Covid-19. Alors que bon, on semble s'acheminer vers une baisse de la propagation du virus en ce moment, on s'interroge sur quelle politique vaccinale faut-il adopter entre l'obligation ou la persuasion. On en était là. J'aimerais qu'on entende Jean-Luc Benamias aussi et Alexandre Malafaye. On vous a pas entendu sur ce sujet-là, sur la politique vaccinale.
On essaie de causer tout le monde, c'est bien.
Oui, oui.
Bon, il n'y a pas un vaccin, semble-t-il. Il y en a beaucoup.
C'est un baston général
de l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques et médicaux.
Ça va faire baisser les prix, cela dit.
L'ensemble de la planète. Donc déjà, faisons le point sur tous ces... Parce qu'il y en a qui veulent qu'on doit garder à moins 80 degrés, d'autres à moins 20 degrés. Bon, ok, très bien. Après, moi, je suis quelqu'un qui me pose des questions par rapport à ça. Mais si je dois me vacciner, je me vaccinerai. Non pas parce que je suis une personne vulnérable, parce que je décide que je peux le faire. Très bien. Mais alors, obligation, n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que tout à l'heure, Alexandre en parlait sur les... Et il n'y a pas qu'Alexandre, aussi Eric, sur les libertés publiques. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Quoi.
J'en parlais également. Hein.
Pardon, excuse-moi, Nadia.
J'en parlais également.
Excuse-moi. Excuse-moi. Donc voilà, arrêtons.
Je disais qu'il fallait plus être dans l'explication.
Comment,
ouais.
Pourquoi le gouvernement, alors que nous avons des puissances médicales, pas des labos, hein, mais des grands médecins, des grands techniciens de la médecine française, c'est à eux de voir comment on diffuse tout cela et comment on répond au peuple, mais pas à l'État français et pas au gouvernement.
Je finis
sur une sorte de conseil de défense qui n'a strictement, c'est un conseil de défense, mais qui n'a strictement rien de sanitaire et de sécurité par rapport à tout cela. C'est uniquement des décisions de savoir si on interdit ou si on autorise.
On est en guerre.
Non, on n'est pas en guerre. Non.
Non, mais j'extrapole. Je rappelle quand même que l'idée de rendre le vaccin obligatoire, rendons à César ce qui appartient à César, c'est venu d'une réponse de Yannick Jadot. Hein. C'est lui qui
a dit. Il s'est fait avoir.
Ah, par un journaliste, je suis sûr.
Non, il s'est fait avoir sur les polémiques que vous connaissez chez les Verts, puisqu'il y a certains Verts qui sont des anti-vaccins primaires. Et donc, il s'est fait avoir parce qu'il a dit oh là, je me candidate dans le présidentiel, je peux pas répondre que je suis contre les vaccins.
Je reviens un instant sur le monde d'Orwell. On est en train de rentrer dedans parce que les masques partout, tout le temps, les distances, la peur sociale de l'autre, maintenant le vaccin. Vaccin, pourquoi pas? Il faut effectivement être assez prudent, assez attentif malgré tout. Mais de toute façon, on ne va pas avoir le choix. C'est là où le piège va se refermer sur nous.
Mais comment on explique cette méfiance de...
Alors, attendez, je n'explique pas cette méfiance. Moi, je dis, à un moment donné, je vous dis simplement que qu'on ait envie ou pas envie, si demain on veut voyager, vraisemblablement, il faudra avoir son passeport vaccin. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont mettre en place ce type de contrôle à l'entrée. Donc, voilà, pas de passeport, pas de vaccin, vous ne rentrez pas chez nous. Et ainsi de suite. Et je pense que ça va se généraliser comme ça. C'est comme ça que le big business du Big Pharma va se refermer sur nous et tout le monde devra y passer. Et au nom du principe de précaution, vous verrez aussi qu'un certain nombre d'entreprises, d'organisations vont y aller. On ne va pas avoir le choix. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement que la liberté, qui est aujourd'hui un vrai sujet, et le fait qu'en France, l'État ne pourra certainement pas obliger tout le monde à y passer, mais on va y être contraint d'une autre manière. Comme aujourd'hui, on contraint les jeunes à faire leurs fameux 3 jours, entre guillemets, pour avoir la possibilité de passer leur permis de conduire. Ce sont des moyens déguisés qui permettent effectivement d'encadrer la liberté.
Oui. En sachant que qu'il y ait une trop faible partie de la population qui décide, si jamais c'est au libre choix des personnes de se faire vacciner, ça ne sert strictement à rien, ou quasiment à rien.
Ce ne sera pas le cas. Vous verrez qu'un grand nombre de personnes iront se faire vacciner parce qu'ils se font vacciner pour autre chose. Mais vous avez entendu comme moi que les vaccins pour la grippe, il y avait à un moment donné, on allait à la pharmacie, j'y suis allé, et ma pharmacienne m'a dit « j'en ai plus ».
Absolument, absolument, absolument. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont fait vacciner cette année contre la grippe. Voilà, donc sur le sujet de la, bah vous parlez de l'hiver. On va ouvrir le, parce que l'heure tourne aussi, les coupures d'électricité. C'est notre sujet ce matin. On voulait parler de ce que a dit hier Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, qui a expliqué qu'il risquait d'y avoir des coupures. Certes très courte, mais des coupures quand même en raison des difficultés d'approvisionnement liées à la crise sanitaire. La pandémie, le confinement ont retardé le planning de maintenance des réacteurs nucléaires, alors que les travaux normalement sont faits en prévision de l'hiver pour anticiper ce qu'on connaît chaque année, les hausses de consommation liées au chauffage. 13 réacteurs ne produiront pas d'électricité au mois de février contre 2 à 4 les années précédentes. Et on le sait, 70% de la production électrique en France se fait grâce aujourd'hui au nucléaire. Alors, si la consommation d'électricité augmente trop ou pendant trop longtemps, le réseau pourrait mettre en place des coupures localisées, temporairement, en épargnant les établissements, bien sûr, les plus sensibles, comme les hôpitaux, heureusement. Et l'idée, c'est donc de délester un peu plus le réseau, on va dire, du grand public, qui ne se fera qu'en dernier recours. Alors, qu'est-ce que vous en dites, chers débatteurs, ce matin? Est-ce que la France devient finalement un petit pays en termes de production d'énergie et notamment d'électricité? Est-ce aussi la conséquence de la fermeture de Fessenheim? Est-ce que il y a des solutions pour éviter ça? Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur ces coupures d'électricité qui se quand même un fait un petit peu nouveau et à mettre sur le compte visiblement de la crise du coronavirus. Qui veut commencer?
Si je puis me permettre de démarrer.
Alexandre Malafaï.
La crise sanitaire a bon dos quand même. Franchement, elle a bon dos. Il faut simplement aujourd'hui qu'on assume.
Pourquoi elle a bon dos?
Voilà. Ouais. À la bandeau, parce que, attendez, pardon, mais alors peut-être qu'effectivement, les conséquences du confinement a fait que des mesures sanitaires ont fait qu'on a pris du retard dans l'entretien de nos centrales. C'est possible. Mais objectivement, on a fait le choix d'un mix énergétique avec un somme d'énergie dite renouvelable qui rentre dans effectivement la fabrication de l'énergie électrique. Et en hiver, il y a moins de soleil, il peut y avoir moins de vent. Et quand on a notre capacité nucléaire qui a été réduite, et entre autres réduite du fait de Fessenheim, et en limite maximum maintenant, effectivement, qui se retrouve à plus pouvoir produire suffisamment, eh ben forcément, on ne peut plus approvisionner le réseau. C'est-à-dire, c'est les conséquences de choix qui ont été décidées, sur lesquelles on n'a pas, je pense, pris les bons équilibres. Ce qui est dommage, c'est que l'électricité en France coûte cher. Alors, on va nous opposer qu'elle coûte moins cher que dans d'autres pays d'Europe, c'est vrai. Il n'empêche qu'elle coûte de plus en plus cher. Sur les 10 dernières années, la facture électrique a quand même augmenté de près de 40%, ou 30%, je crois. Enfin, en tout cas, les chiffres sont assez considérables. C'est bien plus que l'inflation. Et on a un service qui risque de se dégrader parce que ce fameux mix, et la construction de ce mix et la pérennité de ce mix n'est pas assurée. Donc, aujourd'hui, c'est facile de dire c'est à cause du sanitaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'effectivement, on devrait être un peu plus sincère avec les Français.
Moi, je partage cet avis, donc je vais pas être redondante, mais c'est vrai qu'on paye aussi un choix politique. Hein. Le nucléaire, je le rappelle, était une politique industrielle dont on pouvait être fier. Donc là, ce choix politique a été fait, et donc notre capacité nucléaire est amenée progressivement à diminuer. Et donc avec l'impact.
Donc vivement l'EPR, c'est ça que vous dites?
Pardon?
Vous dites vivement l'EPR?
Non, en fait, moi, j'appartiens à un parti politique où nous étions favorables au nucléaire pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons également, j'allais dire, qui a un impact sur la facture des Français. Et donc, je trouverais regrettable, mais maintenant, voilà, le choix politique a été fait. Eh bien, la ministre parlait de diversifier notre production d'électricité. Eh bien, on va voir.
Oui. Jean-Luc Benamias.
Ouais, bon, je me retrouve. Ça fait quand même 40 ans qu'on discute de ça, au niveau international et au niveau national, de savoir si le nucléaire peut produire suffisamment d'électricité. Nous sommes le dernier pays à avoir autant de réacteurs nucléaires. Alors, le problème que nous avons, c'est que nous avons
inventé... Dans le vieux monde, hein. Jean-Luc, dans le vieux monde, les Chinois vont en avoir bien plus que tout.
Non, mais en proportion, Alexandre, ça fera 2% en Chine de production électrique grâce à l'énergie nucléaire. Hein, c'est un très très grand pays, je ne t'apprends rien Alexandre, la Chine c'est énorme. Bon, évidemment ils ont construit beaucoup d'autres barrages, des choses comme ça aussi. Non, je reviens. Nos réacteurs sont très vieux. ils ont 40 ans à 45 ans de moyenne d'âge. Alors, on a inventé, parce qu'on est très inventeurs en France, les EPR. Alors, l'EPR, au départ, devait coûter 3 milliards. Il est monté maintenant à 18 milliards. L'EPR finlandais, que les Finlandais attendent depuis maintenant plusieurs années, si ce n'est une quinzaine d'années, mm-hmm. n'est toujours pas en état de marche. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on a raté dans la diversification et le mix énergétique? Eh bien, on a raté, dans les années 80 notamment, le passage aux énergies dites renouvelables, tout azimut. Il n'y a pas que le solaire et que l'éolien. Il y a la géothermie. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le système qui était possible. On a raté ça. Et on se retrouve évidemment dans certains blocages. Et ça n'est pas nouveau que des réacteurs soient fermés ici ou là. En moyenne, sur nos 53 à 56 réacteurs nucléaires en France, la moitié sont en réinstallation, en réparation, voilà. Et donc là, je demandais à Barbara Pompili, la pauvre, de répondre à ce genre de choses. Elle qui, de naissance, ou en tous les cas, dans son parcours politique, était chez les Verts, c'est vraiment une grande difficulté. Donc, comme en plus, ce n'est pas une grande spécialiste de l'énergie, donc c'est encore plus compliqué.
C'est embêtant voilà. pour la ministre de l'Environnement.
Il y aura des coupures. Moi, j'en sais rien s'il y aura des coupures. Mais effectivement…
Mais est-ce que ce n'est pas un échec de notre politique énergétique?
C'est de penser qu'on nous répondait que le nucléaire répondait aux besoins parce qu'il était en continu, contrairement aux énergies renouvelables. Eh bien, nous apprenons que le nucléaire, comme les énergies renouvelables, subit des coupures.
Alors, attendez. Alexandre, vous gardez.
Mais pas du tout. C'est pas parce que tu as deux réacteurs en moins sur 56 ou 53,
mais bien sûr,
Alexandre.
Mais bien sûr.
On va deux réacteurs.
Ouais. On nous demande de baisser le chauffage.
Sur les deux, un était toujours jamais en état de marche. Ouais. Alexandre. Mais
ce qui est gênant, quand même.
Eric, et après, on a un auditeur au 0826 300.
Ce qui est gênant, c'est qu'en réalité, les écologistes ne donnent jamais tous les éléments du débat lorsqu'ils s'expriment. Et donc, lorsqu'on dit « Ah, le nucléaire, c'est pas bien », on ne dit pas clairement qu'il n'y a en réalité pas d'alternative aussi productive que le nucléaire ouais. et que derrière, il y a un coût. Ah, et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que le discours écologique ne met en avant qu'une défense très hypothétique de la planète et de sa survie, mais ne dit pas clairement aux gens que derrière, ça va coûter plus cher et qu'en réalité… La promotion des idéaux écologiques va tôt ou tard se traduire par une dégradation de nos conditions de vie et par une cherté accrue de notre existence. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en voie de tiers-mondisation parce que, en effet, on limite d'une façon ou d'une autre notre capacité nucléaire et ça signifie qu'on aura moins d'électricité pour tout le monde et qu'il faudra payer plus cher. Il faut l'assumer, l'écologie, c'est un sport de riches.
On va aller au 0826 300 300. On a Benoît qui nous a appelé du Gers. Bonjour Benoît.
Bonjour à vous, bonjour à vous tous.
Bonjour Benoît.
Il y a 50 ans, on avait EDF qui était le fleuron mondial en fourniture d'électricité. C'était ce qui était montré dans les bibliothèques. On avait vraiment le truc que rêvait tout le monde. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre souveraineté à cause de l'Union européenne, où on s'est marié avec des mariages forcés avec tout le reste de l'Europe. Du coup, on est dans un monde ultra-libéral où il faut mettre en concurrence tout et n'importe quoi. Résultat, notre souveraineté énergétique est en train de défaillir, ce qui est vrai, on risque d'avoir des coupures. Quand je vois que l'Union européenne veut nous imposer la vente de nos barrages hydroélectriques, qui va de pair avec le nucléaire, hein, parce que l'avantage du hydroélectrique, c'est que vous ouvrez une vanne, produisez du courant, vous la fermez, vous arrêtez le courant. Alors que le nucléaire, qu'il faut maintenir une stabilité électrique sur tout le réseau. Donc la clé de voûte du nucléaire, c'est l'hydraulique qui va avec. Puisque le voltaïque ne produit pas la journée, le vent, c'est tout à fait anecdotique. Votre discours, je comprends bien. Le truc, c'est qu'il faut qu'on reprenne le contrôle, il faut qu'on s'assume, il faut qu'on dise, voilà, nous, non, on veut... On veut une EDF fort, on veut des fleurons, ben il faut arrêter de mettre en concurrence à tout va. C'est pas possible. On peut pas alléguer tous nos acquis de 50 ans et sombrer.
Merci Benoît d'avoir réagi, participé à ce débat sur les Benoît, potentiels. Allez-y Jean-Luc,
Benoît,
rapidement.
Raison au moins sur un point. C'est le fait que l'Union européenne demande depuis près de 20 ans à la France de vendre, de mettre en libre concurrence ses barrages. Ce qui est absolument incroyable. C'est une demande, je rappelle, tout le monde le sait sur Sud Radio, tout ça c'est payé par nos impôts. C'est-à-dire que on est dans un cadre où on a mis en place une stratégie énergétique nucléaire, hydroélectrique, de plus en plus heureusement d'énergie renouvelable, et on devrait mettre tout ça en concurrentiel. C'est incompatible. C'est incompatible. C'est un besoin essentiel. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne, dans cette espèce de concurrence soi-disant libre et non faussée, crée une concurrence qui n'est ni libre et qui est faussée.
Allez, enfin, on l'eau, continue c'est un besoin essentiel et ça ne te gêne pas de boire de l'eau privée.
Zéro.
C'est un besoin essentiel, ça doit être monopolisé.
Je suis absolument pour. Et en tant qu'élu local, quand je l'étais, j'ai à chaque fois voté pour que ça redevienne en concession municipale, en concession territoriale.
Allez, Jean-Luc Benhamy, Cédric Vérac, Alexandre Malafaï et Najwa El Haïté, nos quatre débatteurs du jour. On va s'arrêter un court instant et on va ouvrir notre dernière discussion. On vous attend aussi au 0826-300-300. On parle de cette loi de sécurité globale. Est-ce que Jean Castex et Emmanuel Macron sont en train de lâcher Gérald Darmanin? C'est la question. Est-ce que ce texte est trop clivant? On en parle avec vous aussi sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on est avec Jean-Luc Benhamy, Cédric Vérac, Alexandre Malafaï et Najwa El Haïté, nos quatre débatteurs de ce vendredi. Et on ouvre le chapitre Gérald Darmanin. Est-ce qu'il est en train d'être lâché par Jean Castex et Emmanuel Macron sur cette loi de sécurité globale et notamment cet article 24 qui sera d'ailleurs débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale? Un texte jugé trop clivant, en tous les cas, cet article 24, dit-on du côté de la majorité, qui va être amendé. Est-ce un camouflet pour Darmanin? Est-ce que c'est un texte mal ficelé qui fait que de toute façon c'est l'histoire d'un ratage, on va dire, assez classique avec des ingrédients qu'on connaît plutôt bien, hein, des arguments qui sont pas forcément clairs, des mobilisations de défenseurs des libertés et une majorité aussi derrière qui souhaite exister. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un recul pour Darmanin qui a voulu là-dessus peut-être flatter les syndicats de policiers avec ce texte qui interdisait donc la diffusion d'images de policiers, ou en tous les cas on pouvait reconnaître policiers et gendarmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Najwa?
Bon, déjà, rappeler que cette proposition de loi sécurité globale ne concerne pas uniquement cet article. C'est-à-dire que dans un contexte de montée de la violence, cette proposition de loi est importante. Donc, il y a un renforcement des missions de la police municipale. Il y a également, et là, les élus vraiment sont en attente de cela, un encadrement concernant l'utilisation et l'achat de mortiers utilisés comme des armes. Donc, voilà, ça ne concerne pas uniquement cet article-là. Après, on ne peut être que d'accord sur protéger ceux qui nous protègent, donc les policiers, les gendarmes, les pompiers. Moi, en tant qu'avocate, j'émets par contre une très, très forte réserve concernant cet article 24. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre de cet article pose question. Pourquoi ? Parce que un policier peut parfaitement, si cet article passe, donc on voit, et heureusement que le gouvernement recule là-dessus, eh bien si cet article passait, eh bien un policier peut parfaitement vous confisquer à titre préventif votre portable. Vous êtes dans une manifestation, vous filmez, eh bien d'ailleurs dernièrement ça a été le cas, il y a une journaliste qui a diffusé cette information où elle filmait un policier, le policier lui a confisqué son portable. Deuxièmement, vous pouvez aussi avoir des gardes à vue préventives. Ben là, en termes de liberté d'expression, oui, on peut se poser des questions et on peut être inquiet. Et on peut être inquiet.
Bien, c'est
oui,
déjà le cas.
Et ben c'est ce que j'ai dit. J'ai cité l'exemple de cette journaliste à qui on a enlevé son portable parce qu'elle filmait un policier en action.
Lundi, des journalistes se sont fait arrêter. Notamment des journalistes de France Télévisions qui sont restés, qui sont passés en garde à vue.
12 heures garde à vue.
En garde à vue. Hein. Il y en a eu 5, dont un de France 3. Moi, je pense que cette loi, de bout en bout, n'a aucune utilité. Car nous avons assez de lois en France par rapport à la sécurité, par rapport à la maîtrise.
Ah, et les mortiers? Et le tir des mortiers?
Les mortiers, très bien. Les mortiers sont en vente libre sur Internet au niveau international et vous voulez réussir à interdire ça? Eh bien, qu'on interdise en France, ce qui est déjà le cas.
Oui, mais
vous
là, ce qui est prévu dans la loi, c'est un traçage.
Les feux d'artifice et les mortiers en France. Et pourtant, ils sont en vente. Et sur Internet, malheureusement, on en discutait tout à l'heure avec les GAFA, nous ne pouvons interdire rien du tout. Alors qu'après, ce soit un très grave problème, notamment dans un certain nombre de nos cités en France. C'est une évidence, il suffit de regarder les images. Et que par rapport à cela, mais l'interdiction ne servira à rien. Il faut voir juste comment on permet aux policiers et aux gendarmeries, notamment aux policiers dans des commissariats de cités en difficulté, d'avoir les moyens nécessaires pour être en condition de résister à tout cela. Ce qui n'est pas si évident que ça, quand dans un certain nombre de commissariats, il reste quatre policiers la nuit dans le commissariat et dans ce genre de commissariat.
Alexandre et Eric.
Je voudrais dire un point.
Eric Verhaeghe.
On parle beaucoup de l'article 24, qui est en effet un article extrêmement préoccupant. Mais moi, je passe mon temps à appeler l'attention sur l'article 21, qui autorise la surveillance des populations, des rues, des manifestations, par drone équipé de caméras qui transmettent des images en temps réel dans des postes de commandement où il y a des logiciels de reconnaissance faciale. Cette manipulation, cette opération, cette autorisation sur laquelle le Conseil d'État, dans un avis qui a été rendu public, a attiré l'attention sur les risques, cette opération permettra d'identifier très facilement tous les participants à une manifestation. Ou il permettra de savoir qui va chercher de l'argent liquide à sa banque. C'est une opération, c'est l'État orwellien dont parlait Alexandre tout à l'heure. C'est une mesure qui me paraît encore plus liberticide que l'article 24. Donc là-dessus, ça pose un vrai problème. C'est qu'on imagine mal que Darmanin, qui est quand même allé déposer des fleurs sur les prétendus martyrs du FLN, et donc qui n'est pas spécialement un sécuritaire, la question c'est pourquoi Darmanin est aujourd'hui aussi prisonnier de la technostructure policière qui lui impose d'une façon ou d'une autre des lois totalement libertistes.
Mais est-ce que cette loi est devenue un problème politique, clairement, pour la majorité ?
Elle est la preuve qu'il y a un tendon d'Achille dans le système Macron, qui est l'appel à des personnalités politiques qui sont prisonnières de leurs états-majors, de leurs départements ministériels. Dans le cas de Darmanin, rappelons-nous qu'on a quand même un ministre qui aujourd'hui a besoin que la police fasse pédale douce ou mette pédale douce, que la police judiciaire mette pédale douce sur des enquêtes personnelles le concernant. Et qu'aujourd'hui, on a un sujet de dérive dans notre système politique, qui est que Emmanuel Macron met au pouvoir des gens qui sont prisonniers des policiers. Alors, en effet, Darmanin, il ne peut pas dire non à l'état-major policier, parce qu'il sait que tôt ou tard, des affaires le concernant sortiront. Et qu'aujourd'hui, on est dans un régime où la technostructure a pris le pouvoir parce qu'elle tient les hommes politiques qui sont chargés de représenter le peuple. Et je pense que ce sera dévastateur.
Allez, il reste un petit peu plus de 2 minutes. On n'a pas entendu Alexandre sur ce dossier-là. Alexandre.
Juste pour dire que, de toute façon, en France, on a la passion de la loi. Il faut toujours faire des lois et chaque ministre veut sa loi. Darmanin n'échappe pas à la règle. Et dans la loi, malheureusement, en France, on met toujours tout et parfois n'importe quoi. Je prends l'exemple des mortiers, qu'on peut effectivement chercher à interdire d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas, mais un décret suffit pour les mortiers. Il n'y a pas besoin de faire des lois et à un moment donné, on peut être beaucoup plus efficace et réactif que ça. Tout mettre dans la loi à chaque fois, c'est une hérésie.
Après, oui, mais parce qu'il y a un volet pénal et on souhaite sanctionner de manière beaucoup plus. Voilà.
Donc, à un moment donné, si vous voulez, ces lois qui sont mal ficelées, dans lesquelles il y a des dizaines d'articles, plus personne ne s'y retrouve, c'est pas.
Surtout qu'il y a la loi contre le séparatisme qui a été rebaptisée, qui aura un volet, justement, dissuasion de la haine en ligne.
Si dans ce pays, on appliquait déjà à peu près correctement les lois qui sont votées, ça irait déjà très bien, et c'est un vrai sujet. Parce que chaque fois qu'on fait une loi, on n'évalue pas la loi d'avant. Et en plus, on ne modélise pas. En fait, on est un pays qui ne fait pas d'études d'impact. Et typiquement, sur les dispositions qui sont l'article 21, l'article 24, mais aussi l'article qui prévoit aussi d'encadrer la liberté des journalistes pour couvrir des manifestations, dans tous ces sujets-là, on ne modélise pas. On ne s'intéresse pas aux conséquences. Parce que le sujet, c'est pas que bien sûr qu'il faut contrôler, bien sûr qu'il faut organiser, bien sûr qu'il faut protéger. Ça va de soi. Mais il faut essayer de modéliser. C'est imaginer ce que ça peut donner dans la durée. Voilà. Et je crois que derrière, parfois, ces bonnes idées sur le principe, il y a des pièges redoutables. Et comme en plus, on est dans une période où on a déjà perdu beaucoup de liberté depuis ces dernières années, du fait malheureusement du terrorisme et maintenant du fait de la crise sanitaire. Avant d'en rajouter 3 couches, il serait prudent de trouver des bons équilibres. Parce qu'une fois que c'est voté, comme en plus on a des lois qui n'intègrent pas de clause de revoyure, une fois que c'est voté, c'est dans le marbre. On devrait, sur des lois comme celle-là, donner des périodes d'application. Dans 3 ans, obligation de revisiter la loi. Parce que c'est trop sensible. Ce sont nos libertés. Tant qu'il n'y a pas de clause de revoyure, moi par principe, je suis très méfiant à l'idée qu'on puisse nous enlever encore effectivement des libertés ou qu'on nous contrôle davantage. Il faut mesurer, évaluer. Si ça donne des bons résultats, on avance. Sinon, on corrige corrige et on reprend. Et ce que ne fait pas aujourd'hui, ce que ne font pas nos lois en France.
Allez, merci beaucoup à tous les quatre. Alexandre Malafaï, Najwa El Haït, Éric Vérag et Jean-Luc Benamias, nos quatre débatteurs du jour et que l'on retrouvera sur l'antenne de Sud Radio dans le 10h midi qui se referme pour cette semaine encore riche en actualité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec André Bercoff pour le 10h, pour le midi 14h. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end et lundi, vous retrouverez Valérie Expert. À très bientôt.